Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 à N'Djamena, 4h30 temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le président du Tchad visé par une enquête préliminaire de la justice française.
Le parquet national financier soupçonne des détournements de fonds publics de la part de Mahamat Idriss Déby en cause des virements qui ont servi à acheter près d'1 million d'euros de vêtements. Une affaire révélée à la fin de l'année dernière par le site d'information Mediapart et pour lequel le chef de l'État tchadien a parlé de tapage médiatique absurde. Explication dans un instant. Dans ce journal, également les Comores qui ont un nouveau gouvernement, bien plus jeune que le précédent, et dans lequel le fils du président Assoumani est désormais secrétaire général. Reportage à Nairobi, nouvelle journée de mobilisation hier contre le président William Ruto, et des jeunes en colère qui ont fait face à un fort déploiement policier dans la capitale du Kenya. Nous serons aussi à Madagascar pour parler des violences qui touchent les enfants albinos, et à Dakar, au Sénégal, pour le début hier des épreuves du bac. Après des dirigeants du Gabon, du Congo-Brazzaville et de Guinée équatoriale, c'est désormais le président du Tchad qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en France pour des soupçons de détournement de fonds publics. On apprend qu'au début de l'année, le parquet national financier à Paris a ouvert une enquête préliminaire contre Mahamat Idriss Déby. Dans son viseur, des dépenses d'habillement, près d'1 million d'euros effectuées par le chef d'État tchadien. Précision et explication avec Lisa Fabian.
L'enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel a été ouverte dès le mois de janvier par le parquet national financier. Les investigations viseraient en particulier deux virements réalisés par Mahamat Idriss Déby en décembre 2021 et en mai 2023 au bénéfice d'un célèbre tailleur parisien. D'un montant total de plus de 915 000 euros, ils auraient permis au président tchadien d'acquérir une garde-robe luxueuse composée entre autres de 57 costumes dont le prix oscille entre 9 000 et 13 000 euros. Dans son autobiographie, Mahamat Idriss Déby est revenu sur cette affaire qu'il considère comme un symbole de la manipulation en politique et qui aurait été montée de toutes pièces par Abakar Manani, ex-conseiller chargé des affaires présidentielles et ministre d'État tombé en disgrâce. Dans son texte, le chef de l'État tchadien dénonce un tapage médiatique absurde et affirme avoir toujours préféré les habits traditionnels aux costumes.
Lisa Fabian, c'est sans conteste une forme d'affirmation de notre souveraineté. Déclaration hier à Libreville du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. L'État du Gabon a officialisé hier le rachat d'Assala Energy, deuxième producteur de pétrole dans le pays et pour lequel Libreville a fait valoir son droit de préemption, acquisition pour un coût d'$1,3 milliard. Un gouvernement plus jeune, mais pas plus ouvert, aux Comores, un peu plus d'un mois après sa réélection et pour débuter son troisième mandat consécutif, le président Azali Assoumani a nommé un nouveau gouvernement. L'ancien cabinet avait une moyenne d'âge de 60 ans. Pour le nouveau, c'est 20 ans de moins. À Moroni, la correspondance d'Abdallah Zembaba.
De l'équipe précédente, seul le ministre de l'Intérieur est resté en poste. Sur les 15 membres du nouveau gouvernement, il n'y a que deux femmes, Inayati Sidi, ministre de la Jeunesse, et Fatima Amada, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, jusqu'ici présentatrice à la télé nationale. Ahmed Ali Amir, conseiller spécial du chef de l'État chargé de la communication, revient sur cette nouvelle équipe.
Le président mise sans doute sur le renouvellement de la classe politique. Le président a fait le choix de la compétence, de la crédibilité des personnes nommées. Ils ont entre la quarantaine et la cinquantaine, c'est vous dire que le terme jeune est galvaudé ici. Je reconnais que c'est un challenge pour eux, donc un pari audacieux pour le président.
Pour l'opposition, ce gouvernement dit de rajeunissement n'est pas forcément synonyme de réussite. Et l'éviction de certains cadors, comme Houmed Msédié, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, ne laisse pas indifférent. Fahmi Saïd Ibrahim, opposant et ancien ministre des Affaires étrangères.
Ce qui m'a le plus troublé, c'est de voir que des hommes politiques comme Saïdié soient évincés. C'est une personnalité de premier rang et qui a joué un rôle majeur pour stabiliser le pouvoir actuel, notamment après les élections.
Autre fait marquant, si la plupart des ministres entrants sont inconnus du grand public, ce n'est pas le cas du nouveau secrétaire général du gouvernement, Nour El Fattah Azali, jusqu'ici conseiller privé omniprésent de son président de père, Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
Un nouveau gouvernement qui prête serment. Aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud, gouvernement de coalition mené par l'ANC, du président Cyril Ramaphosa et notamment les anciens opposants de l'Alliance démocratique. Il compte au total une dizaine de partis pour 75 ministres et ministres adjoints. À Nairobi, à Mombasa, on a de nouveau manifesté hier, ou en tout cas on a essayé. Au Kenya, nouvelle journée de manifestation à l'appel de la jeunesse contre le président William Ruto. Dans un pays où près d'une quarantaine de manifestants ont perdu la vie ces dernières semaines et où l'annonce par le chef de l'État de l'abandon d'un projet de loi de finances contesté et l'annonce aussi de discussions à venir n'a pas suffi à calmer la contestation. Hier à Nairobi, à la capitale kényane, plusieurs centaines de jeunes se sont rendus dans le centre-ville mais se sont très vite heurtés aux forces de l'ordre. Reportage de Gaël Alex.
C'est en costume cravate que Kazmo Makaore, jeune pianiste, est venu manifester. Il laisse les armures aux policiers, lui préfère la tenue de citoyen.
Je suis dans la rue pour demander justice, pour demander que le gouvernement arrête de nous tuer, pour demander la paix. Quand on dit « Ruto doit partir », on n'appelle pas à l'anarchie. On appelle la jeunesse à demander la fin de la corruption, une nouvelle élection et le retour de l'état de droit.
À chaque rassemblement, la police tire des gaz lacrymogènes, elle sort les canons à eau. Réfugié dans un hall d'immeuble, Michel n'en peut plus.
La police devrait protéger les gens, mais dans ce pays, elle les harcèle. William Ruto est un menteur. Il se moque de la jeunesse. Pourtant, la jeunesse représente la majorité des Kenyans. Et elle parle d'une seule voix. Alors, ils déploient leur nez pour nous effrayer. Vous entendez ? C'est mal. C'est de la folie pure.
La loi de finances est bien loin maintenant dans les esprits des manifestants. Ce qu'ils demandent désormais, c'est entre autres la fin des violences policières. Brenda s'interroge sur l'état de droit dans son pays.
J'ai peur d'être blessée, d'être arrêtée, que mes amis soient arrêtés. Vous pouvez marcher et vous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Des manifestants sont toujours portés disparus, donc c'est effrayant. Cet usage excessif de la violence m'interroge. Est-ce que William Ruto veut vraiment nous écouter ? Je ne me sens pas entendue.
William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs pour un dialogue avec la jeunesse. La génération Z, quant à elle, appelle à poursuivre la mobilisation jusqu'à dimanche. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
RFI, 4h37 à Nouakchott, en Mauritanie, où le ministère de l'Intérieur indique que 3 personnes sont mortes suite à des émeutes et des arrestations par les forces de l'ordre lundi. À Kaïdi, c'est dans le sud du pays, après l'annonce par la commission électorale de la réélection du président Razouani. Le ministère assure que 2 de ces personnes sont mortes en détention, le 3e à l'hôpital. Mais les autorités mauritaniennes ne donnent pas plus de précisions sur les circonstances de leur décès. À Madagascar, c'est un phénomène que le sud-est de la grande île ne connaissait pas, ou alors de manière marginale, ces dernières années. Les Nations Unies disent avoir compté depuis novembre dernier une dizaine de jeunes albinos enlevés, certains violentés, violés, voire tués. Les albinos qui font l'objet de nombreux fantasmes en raison de la différence de pigmentation de leur peau. À Antananarive, la correspondance de Sarah Teto.
Leur différence physique nourrit des superstitions des plus dangereuses. On prêterait ainsi aux yeux des enfants atteints d'albinisme des pouvoirs magiques permettant de repérer même dans le noir des gisements de minerais précieux. C'est en tout cas ce qu'ont confié aux enquêteurs certains des ravisseurs arrêtés le mois passé dans le district de Mananzar après avoir exécuté l'enfant qu'ils avaient kidnappé et pour lequel ils n'avaient pas trouvé d'acquéreur. Sabine Laubert est la chef du bureau des droits humains sur l'île.
Au sud-est de Madagascar, nous croyons que ce sont des croyances néfastes et une augmentation de la crise humanitaire qui a aussi contribué à augmenter les attaques.
Dans l'urgence, les autorités essaient de placer en sécurité les enfants pris pour cible dans des centres ou des orphelinats qui acceptent de les accueillir. Une solution toutefois difficilement tenable sur la durée. Sur le continent, chez les pays voisins ayant subi des situations similaires, des stratégies nationales de lutte ont été menées. Les résultats sont positifs et pourraient bien être pris comme modèle.
Ce qui a bien fonctionné est baisser la violence en Afrique de l'Est sans un cadre complet pour assurer la sécurité d'une personne atteinte d'albinisme et leur famille et leur communauté, accès à l'éducation, accès à la santé et assurer l'emploi.
Des stratégies au long cours, mais nécessaires pour enrayer ce phénomène dramatique. Selon le Bureau des droits de l'homme, Madagascar serait désormais le pays dans lequel le taux d'agression contre les personnes atteintes d'albinisme est le plus élevé au monde. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Dans l'actualité des pays africains ce matin également, l'ONG Save the Children qui salue un texte qualifié d'historique. Hier, Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, a promulgué une loi qui interdit le mariage des enfants, loi qui prévoit des peines de prison et des amendes pour qui épouserait une fille de moins de 18 ans. Elle interdit aussi le concubinage avec un mineur et prévoit des compensations pour les victimes de mariage précoce et les jeunes femmes tombées enceintes dans le cadre d'une telle union. Enfin, c'est au Sénégal, c'est parti depuis hier pour 3 jours d'épreuves, le baccalauréat. L'examen concerne cette année près de 160 000 élèves sénégalais. Et pour RFI, Gwendal Lavina s'est rendue dans l'un des près de 500 centres d'examen, précisément celui du lycée Sédima Limanou Lai dans la banlieue de Dakar. Premières impressions après la première épreuve.
Voilà, merci beaucoup, il est l'heure. Donc posez les stylos, on va ramasser les copies.
À midi, la même annonce dans les 70 salles de l'établissement qui accueille plus de 2200 candidats. Fatimata est en filière littéraire, elle vient de terminer son épreuve de philosophie.
C'était plutôt abordable, surtout le commentaire, c'était explicite. Je m'étais préparée à ça, surtout le domaine de la liberté. Je me suis bien exercée avant de venir. Ça parlait de liberté et d'indépendance et j'ai fait le mieux, on va gérer quand même.
Amadou, lui, sort de 4 heures de dissertation et il est moins confiant.
Ça sent pas bon. Cette matière est très difficile. On ne comprend pas les sujets. Si tu apprends les leçons, recopier les leçons, tu as 0. Tu réfléchis, on te met 5. C'est pourquoi nous, les élèves, on déteste ce philo.
Forcément, le bac, c'est important, mais Maïmouna relativise.
Oui, il y a du stress parce qu'on ne peut pas dire examen sans stress. Donc, on a un objectif, c'est avoir le baccalauréat et on va le faire avec esprit zen et calme.
Le stress touche aussi Madame Dabo, la proviseure et directrice du centre d'examen. C'est dans son bureau que sont entreposés les malles contenant les sujets.
Depuis hier, le commissaire central de Guéyoué nous a envoyé 2 policiers vers 20h. Et c'est ici qu'ils sont passés la nuit. Donc pour assurer la sécurité des malles, parce qu'on ne sait jamais.
Des policiers qui resteront en place jusqu'à la distribution des sujets des dernières épreuves prévues demain. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
À Dakar, au Sénégal, où il est maintenant 4h42 et vous êtes avec Arnaud Pontus.
Merci à vous, Xavier Besson. À tout à l'heure.